L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Catus 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présent ce midi. Quel plaisir de vous retrouver, David Torchala, puis vous souhaitez bien sûr à tous les auditeurs, puisque on reprend pour vous et peut-être aussi pour moi le travail. Bonjour David et bonne année.
Mais oui, bonjour Philippe, bonjour à tous, et bien évidemment toute l'équipe de Radio Présence vous adresse ses meilleurs vœux. Alors c'est vrai qu'on était avec vous voilà à l'antenne tous les jours de ces fêtes de Noël pour vous faire vivre des grands moments. C'était particulièrement aussi hier en la cathédrale de Tarbes à 17h30, la clôture de l'année jubilaire pour ce jour de l'Épiphanie. Voilà, on était avec vous, mais on continue. 5 janvier, c'est un lundi. On continue évidemment d'être à vos côtés, mon cher Philippe.
Exactement. Merci pour ces bons vœux. Puis on vous retrouve d'ici quelques instants pour bien sûr la chronique sur l'information religieuse. Et l'information religieuse, le lundi, c'est le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes qui est à l'honneur.
On ne change pas les bonnes habitudes en 2026.
Exactement. Et puis on retrouvera le père Michel Dauban aussi. Vous l'avez interviewé sur les malades à Lourdes. Une belle interview. Donc on retrouvera le père Michel Dauban, effectivement, le recteur du sanctuaire, pour nous parler donc des malades à Lourdes. Et puis, de passage à Lourdes, comme chaque semaine, Mathias Terrier sera avec quelqu'un que vous connaissez bien, Cello Ferral. Elle est, je crois, dans votre équipe.
Ah oui, elle est chargée de la communication. Elle a plein de belles choses à dire, Cello Ferral.
Et oui, on va voir comment de l'Espagne elle est arrivée à Lourdes et comment Notre-Dame de Lourdes l'a fait venir ici à Lourdes, et elle a même trouvé son mari.
Ah oui, on peut dire que pour elle, Lourdes a changé sa vie.
A complètement changé sa vie. Allez, on se retrouve d'ici une poignée de secondes, et avant on retrouve les titres de l'actualité de ce jour.
Ce midi, un rassemblement sera organisé à Audressein par la Confédération Paysanne de l'Ariège en soutien à la ferme touchée par le 3e foyer de dermatose nodulaire. Vigilance sur les routes du Gers, les récentes manifestations ont entraîné la déviation de certains passages, notamment au niveau d'Auch et de la route départementale 1124 en direction de Haute-Garonne. Gardez un œil sur votre agenda, le début de la grève nationale des médecins généralistes et praticiens libéraux risque de perturber fortement les services de santé de Haute-Garonne. Tarbes accueille son chevalier de la Légion d'honneur. Jean-Christian Pédebois, maire de Barbazan-Débat près de Tarbes, a reçu les honneurs de l'État ce 1er janvier au grade d'officier et au titre de son engagement politique. Le château de Bioul, quant à lui, entame sa restauration. Le préfet du Tarn-et-Garonne a remercié la Fondation du patrimoine pour son don de 185 000 euros dédié à la restauration du monument historique. Attention sur la route. Météo France a placé ce matin les départements du Lot, de l'Aveyron et du Gers en vigilance jaune grand froid. Les automobilistes sont priés d'être vigilants au brouillard ainsi qu'au verglas.
Exactement, il faut effectivement rester bien vigilant. Merci beaucoup à Lou Denville de l'ISCPA de Toulouse, l'école de journalisme et de communication donc de Blagnac, qui est avec nous cette semaine. On remercie bien sûr tous ces jeunes qui se mettent au service de Radio Présence pour nous faire le flash. C'est aussi pour eux quelque part, eh ben voilà, un bel exercice de faire de la radio. Allez, on va tout de suite prendre des nouvelles du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Présence dans la cité mariale 96.
Et c'est en votre compagnie chaque semaine, David Torchala, que nous parlons bien sûr de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors on dit souvent que l'hiver, il se passe pas grand-chose hors saison, alors que vous nous prouvez chaque semaine qu'à Lourdes, il se passe toujours quelque chose au sanctuaire.
Vous faites rire, Philippe, parce que s'il y a bien une semaine où elle est, où une semaine calme, c'est bien cette première semaine de janvier, et on mérite tellement de calme. Non, mais c'est simplement pour plaisanter, mais évidemment, le sanctuaire a proposé pendant tout ce temps de fêtes de fin d'année, de vacances scolaires, un très beau programme qui a amené des milliers et des milliers de personnes à venir vivre un temps de Noël un petit peu autrement, à la découverte des crèches, des spectacles qui ont été donnés sur le parvis de la basilique du Rosaire pour venir prier le chapelet à la grotte le soir, la nuit, à la lumière des flambeaux. Que c'est beau aussi de vivre ces temps de fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël. Et puis aussi, il a été l'occasion pour le recteur du sanctuaire et les chapelains de clôturer cette année jubilaire. C'était le 31 décembre dernier. Donc voilà, le jubilé de l'espérance, c'est fini. Oh, c'est très triste de dire ça. C'est forcément pas fini parce que l'espérance, eh bien, elle est toujours dans notre cœur en 2026. Et puis vraiment, c'est pas un scoop, ça sera encore pour les années prochaines. En tout cas, on a pu rencontrer le recteur le soir même du 31 décembre, qui a tenu à adresser ses vœux à vous tous, chers auditeurs.
Nous sommes le 1er janvier, il est minuit et quelques minutes, et j'ai la grande joie de venir vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Nous venons avec Monseigneur Mika de célébrer l'Eucharistie, ici même à la grotte de Massabielle, la grotte des Apparitions, pour la clôture de l'année jubilaire et pour rendre grâce de ce que fut cette belle année où nous avons été invités à être pèlerins d'espérance. Et nous avons aussi bien évidemment présenté au Seigneur cette nouvelle année qui s'ouvre. C'est donc l'occasion pour moi de vous la souhaiter bonne et belle, bonne et heureuse année 2026, bonne et sainte année 2026, bonne année et bonne santé. Le thème pastoral de cette année 2026, ce sont les premières paroles de l'ange à la Vierge Marie, à l'Annonciation. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Eh bien, ici même, à la grotte de Massabielle, mon souhait, mon désir, ma prière, c'est pour que, à l'occasion de cette année, vous puissiez venir en pèlerinage pour vous confier au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie et pour que vous puissiez bénéficier de cette grâce dont la Vierge Marie a été comblée pour vous et tous les vôtres, tous les membres de vos familles, de vos communautés, de vos diocèses. Alors oui, chers amis, chers pèlerins, bonne, belle et sainte année à vous toutes et tous.
Présence à Gourdon, 104.8.
Voilà, c'était donc le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes qui présentait ses vœux, ben, on l'a bien compris, juste après la messe.
Oui, c'est ça, au cœur même de la grotte. Et donc, il a tenu à donner le titre et le thème de cette année 2026 pour tous les pèlerinages de l'année. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Voilà, donc c'est bien la prière du « Je vous salue Marie », le « Oui » de Marie qui sera le fil conducteur de tous les pèlerinages, effectivement, de l'année.
Voilà. Alors, les grandes dates qui vont se profiler, bien sûr, ça va être rapidement le 11 février.
Oui, la prochaine date qui nous anime déjà tous, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, premier anniversaire de la première apparition, et puis journée mondiale des malades. Mais... c'est l'occasion pour le sanctuaire de réunir au cours de plusieurs journées, les journées de Lourdes au pluriel, tous les organisateurs de pèlerinage, les présidents d'hospitalité, tous ceux qui viennent à Lourdes accompagner des personnes malades, handicapées, voilà, touchées par parfois la dureté de la vie, de leur pouvoir leur faire vivre ici un pèlerinage. Et c'est d'ailleurs l'occasion que j'ai pu avoir pendant le temps de ces fêtes d'interviewer le recteur sur cette singularité qu'a le sanctuaire de Lourdes dans l'accueil des personnes malades. Alors oui, il y a des sanctuaires dans le monde, il y en a beaucoup, des sanctuaires avec des apparitions. Lourdes est certainement l'un des plus célèbres, mais par contre, c'est le seul à avoir ce charisme d'accueil des malades. Et ça, on le doit évidemment aux hospitaliers. Alors bah, du coup, je vous propose d'écouter ce temps d'échange que j'ai pu avoir avec le recteur.
On vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup David Tourchala. Et puis ben, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ben, promis, je serai là. Merci beaucoup.
On vous retrouve avec cette belle interview que vous avez fait donc avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci David.
Frappé par une image, celle de brancards qui avancent lentement, de fauteuils bleus poussés avec douceur, de regards échangés entre pèlerins malades et hospitaliers ici à Lourdes. La fragilité n'est pas mise à l'écart, elle est accueillie, entourée, elle est portée. Depuis plus d'un siècle et demi, Lourdes est ce lieu où les plus faibles deviennent les premiers, où l'on avance ensemble, à la lumière des flambeaux le soir des processions, à la lumière de la Vierge Marie. Et si tant de pèlerins malades reviennent, année après année, c'est parce qu'ils savent qu'à Lourdes, tout est fait pour eux, pensé pour eux, tout est offert pour eux. Pour comprendre cette mission unique, je pense qu'on peut le dire, nous allons vérifier avec vous, Père Michel Dauban, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire. Ensemble, nous allons aller peut-être au cœur du message de Lourdes, en parlant de l'accueil, du service, de cette charité en acte qui est vécue avec la présence des malades au sein du sanctuaire. Ils sont chaque année des milliers de pèlerins à venir, plus de 20 000 dans les accueils médicalisés. Ils sont très nombreux aussi à venir entourés de leur famille, de leurs amis. Et puis il y a aussi les malades invisibles et le handicap qui est invisible. Il n'est pas simple de donner des statistiques, mais pour autant, est-ce que c'est vraiment la vocation du sanctuaire que d'accueillir les pèlerins malades à Lourdes ?
Je pense que c'est d'autant plus la vocation que ça s'inscrit dans vraiment la dynamique tout simplement de l'évangile. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus s'est tourné vers les malades, les précaires, les lépreux, ce furent les malades de l'époque, les sourds, les muets, les boiteux. Et donc de fait, il y a une continuité dans cet évangile qui est vraiment annoncé et reçu par les plus petits. Et de fait, c'est aussi pleinement dans la continuité du message de la Vierge Marie à Bernadette, avec cette invitation à faire œuvre de pénitence et donc à la traduire par une attitude, des gestes de charité et de charité envers ceux qui ont besoin de notre aide, de nos frères et sœurs qui ont besoin d'un soutien pour concrètement venir en pèlerinage.
La présence des malades démarre au moment même des apparitions, et finalement, elle sera toujours sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça. De fait, la première miraculée, c'est Catherine Latapie de Loubajac qui est guérie le 1er mars 1858, alors qu'elle a fait l'aller-retour à pied, évidemment, dans la journée. Son bras paralysé retrouve toute son agilité dès le soir même. Et du reste, elle accouche de son petit garçon le soir même, après cette journée particulièrement riche. Il y a très vite Louis Bourriette qui est également guéri. Et effectivement, sans discontinuité, les malades sont venus. Alors c'est le bouche à oreille évidemment qui a fonctionné. Et ils sont venus et des guérisons se sont multipliées. On voit des photos plus ou moins anciennes avec cette grotte, avec toutes ces cannes qui sont posées au-dessus de la grotte et qui témoignent de ces personnes qui sont venues assister et qui repartent, j'allais dire, en gambadant.
La Vierge Marie, quand elle est apparue à Bernadette, ne lui a pas demandé directement d'amener, d'accompagner, de faire venir des malades à Lourdes. Et pour cette troisième parole, elle dira à Bernadette, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Cette phrase, elle est simple à comprendre, mais quelle est véritablement sa signification ?
Sa signification, c'est de considérer que notre foi, fondamentalement, elle nous oriente vers notre avenir en Dieu, au-delà de ce monde-ci, mais notre foi, elle nous oriente aussi dès ici-bas, dans cette vie de foi, de charité, d'espérance que nous sommes invités à vivre au nom de notre baptême. Quelque part, cet autre monde, c'est aussi une autre manière de voir le monde dès ici-bas, en donnant toute son attention précisément à ce que nous invite à vivre la foi.
Le rôle des hospitaliers est central à Lourdes. Ils sont souvent les premières mains tendues, les premiers sourires. Selon vous, qu'est-ce qu'ils font de leur mission à Lourdes ?
Ce qu'ils font de leur mission, c'est déjà l'appel. L'appel de la Vierge Marie. Beaucoup disent très vite dans leur témoignage que s'ils sont venus à Lourdes, c'est pas le hasard, c'est parce qu'ils y ont été appelés. Et c'est parce qu'il y a quelque chose là qui se vit d'absolument déterminant dans leur propre vie intérieure. Et de fait, dès lors qu'on entre dans le sanctuaire de Lourdes et que l'on s'engage au service des malades, comme dit notre cher docteur Alessandro de Francisis, nous attrapons la lourdite. La lourdite, c'est cette maladie qui est une très très bonne maladie, qui est très contagieuse et fort heureusement, qui consiste de fait à continuer à œuvrer dans ce domaine de la charité qui nous épanouit. Bien sûr que le service, il est important parce qu'il est rendu à l'autre qui n'aurait pas pu venir sans nous, mais il nous épanouit à nous-mêmes qui sont heureux d'avoir pu rendre ce service. Et cette génération, c'est comme les boules de neige, elles ne cessent de grandir, elles ne cessent de se développer au fur et à mesure que l'on s'engage, donc on ne peut plus s'en passer.
Cette charité, il faut aussi savoir l'appréhender, la mettre en place, l'organiser. On sait l'organisation des hospitalités. Est-ce que c'est une école de charité, une hospitalité ? Est-ce qu'on apprend à devenir charitable ?
Alors, je crois que pour une part, effectivement, on apprend à être, alors non pas charitable, mais on apprend à être hospitalier avec des gestes qui parfois sont très très techniques. Il y a des maladies, des pathologies invisibles avec des personnes qui sont tout à fait autonomes, mais il y en a d'autres qui sont très lourdement handicapées, et donc prendre en charge une personne très handicapée, ça s'apprend. Il y a des gestes tout à fait précis à ne pas faire, et donc des gestes à faire. Après, une fois ceci étant dit, le témoignage des uns et des autres opère, et ce n'est pas compliqué d'être contaminé et de trouver finalement assez vite l'attitude qui convient, le positionnement qui convient. Vous savez, bien souvent, il ne s'agit pas d'avoir des gestes précis, des paroles très importantes en réponse aux questions essentielles que vont nous poser les malades. Il s'agit d'être avec eux. Il s'agit d'être auprès d'eux, de les accompagner, de les tenir parfois par la main, voilà, d'être là, présent dans les gestes les plus simples, et c'est ça qui parle. Et ça nous vient du fond de l'humanité. Je pense que l'école, elle peut ne pas être forcément très très essentielle. On apprend tous chacun individuellement aussi.
Pour aider chacun, le sanctuaire déploie des structures d'accueil médicalisées, des structures adaptées pour vivre le pèlerinage. C'est une vraie organisation de faire venir des malades à Lourdes. Concrètement, sans entrer dans un grand détail, mais comment s'organise cet accueil des malades à Lourdes ?
Alors il y a l'accueil Notre-Dame et puis l'accueil Sainte-Marie-Saint-Fré avec les sœurs de Saint-Fré qui le gèrent, donc deux établissements importants, deux établissements hospitaliers qui sont organisés, qui sont prévus pour accueillir des malades avec toute la médicalisation donc qui s'impose, avec le défi aussi de faire en sorte que cet accueil reste un accueil pleinement humain et qu'on n'ait pas l'impression effectivement d'être dans une chambre d'hôpital, même si c'est le cas. Et donc cela passe par de la décoration, cela passe par de l'attention, cela passe par de l'individualisation. De fait, un accueil, il y a évidemment un certain nombre de personnels salariés tout à fait indispensables pour être constitué l'ossature de cet accueil. Et puis ensuite, il y a des bénévoles et avec les hospitaliers, et à la fois les hospitaliers Notre-Dame de Lourdes qui sont là pour accueillir ceux qui viennent, et les hospitaliers des diocèses respectifs qui accompagnent les malades qui viennent dans le cadre de leur pèlerinage. Et tout ceci forme une alchimie assez extraordinaire. Ça marche. C'est aussi un des miracles de Lourdes.
On l'a dit en introduction, c'est plus de 20 000 pèlerins malades qui se rendent dans les accueils. Mais pour autant, les accueils sont tellement grands qu'il y a encore de la place libre. Que diriez-vous à une personne malade qui hésite à faire le pas, à prendre ce billet de train ou ce billet d'autocar ou même d'avion pour venir à Lourdes?
Je dirais évidemment qu'il ne faut pas hésiter. Parce que tout est fait pour que ça se passe bien. On peut avoir quelques appréhensions légitimes avant de venir. Une fois qu'on est venu, on se rend compte qu'elles n'étaient pas, justifiées. Je vous remercie de poser cette question parce que je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui pour tous. D'abord pour les malades, bien évidemment, qui peuvent en profiter, en bénéficier, mais également pour les accueils eux-mêmes, pour le sanctuaire eux-mêmes, parce que la présence des malades, la présence des hospitaliers auprès des malades, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce qui se vit dans le sanctuaire. Et c'est là qu'il y a ce témoignage de la charité en acte qui parle. Et qui parle à tous ceux qui viennent, qui passent dans le sanctuaire, qui ne le connaissaient pas forcément, et puis qui vont être vraiment interpellés par cette foi vivante. Et c'est vraiment l'ADN du sanctuaire qui se vit là. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire venir des malades pour qu'ils en profitent, pour qu'ils soient les premiers à en profiter, mais pour que l'ensemble du sanctuaire en profite, et donc notre monde, l'Église. Y a-t-il un plus beau témoignage de la foi que de manifester cette charité concrète auprès des plus petits et des personnes malades? Je pense pas.
C'est votre cœur d'hospitalier qui parle, parce que vous êtes recteur, mais vous avez été, vous êtes toujours hospitalier quand vous dites
vous
ça.
Vous posez la question parce que vous le saviez ou parce que vous l'écoutez?
Non, parce que
à travers mes mots.
Je vous entends sur une voix institutionnelle, évidemment, mais là on sent en fait une émotion aussi dans cet appel, en tout cas pouvoir faire venir les malades. Est-ce que vous pensez que vous qui avez été hospitalier, il est nécessaire aussi de venir resserrer les rangs des hospitaliers?
Je pense que il est fondamental de venir étoffer le rang des hospitaliers. Alors effectivement, je l'avoue, c'est l'hospitalier que je fus qui parle, et c'est le recteur d'aujourd'hui, et je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les deux, parce que en tant que recteur, je fais tout pour être au service des pèlerins, et je suis vraiment convaincu de la beauté de ce service là qui nous épanouit. Je pense à cette parole qu'on attribue à Jésus dans les Actes des Apôtres, où effectivement on fait dire à Jésus il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Et je pense que c'est vraiment vrai, et que on a tous un grand intérêt à faire partie de cette école de l'hospitalité d'une manière générale, mais de fait du service, pour voir que c'est là que on rend du coup vraiment service et que l'on s'épanouit pleinement. Là est le bonheur et pas ailleurs. Là est l'autre monde que la Vierge Marie avait promis à Bernadette, et pas aussi ailleurs, mais déjà ici même.
Merci Père Michel Dauban.
Je vous en prie, avec plaisir.
Voilà, à l'instant, c'était le recteur du sanctuaire, le Père Michel Dauban, qui était interviewé par David Torchala. Voilà qui va conclure ce long moment consacré à l'information donc du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, comme nous le faisons chaque lundi. Nous allons reprendre tranquillement le courant de cette émission avec une pause musicale, et puis on retrouvera d'ici quelques instants l'actualité de la mi-journée.
Radio Présence à Cahors, 92.5.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon non celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Présenté par Lou Donneville.
Nouvelle opération coup de poing contre la dermatose nodulaire à Audressein dans l'Ariège. Ce midi, un barrage filtré sera mis en place par des agriculteurs soutenus par la Confédération paysanne de l'Ariège. Cette action de soutien à la ferme d'Orgibet fait suite au troisième abattage d'une vingtaine de bovins concernés par un foyer des dermatoses nodulaires. Gardez un œil sur votre GPS. Les récentes manifestations ont entraîné la déviation de certains passages sur les routes du Gers. Vigilance, la route départementale 1124 entre Auch et la Haute-Garonne est aujourd'hui fermée dans les deux sens. Du côté de Nogaro et d'Auch, des déviations ont été mises en place suite à la fermeture de certains giratoires. Les autorités du Gers conseillent l'anticipation des déplacements sur le reste du département. Aujourd'hui débute la grève nationale des médecins généralistes et praticiens libéraux contre le budget de la Sécurité sociale 2026. Pendant 10 jours, les services de santé de Haute-Garonne seront presque à l'arrêt. La ministre de la Santé Stéphanie Rist assure que des moyens seront mis en place pour pallier le manque de personnel en cas de surcharge des hôpitaux publics et urgences. Pensez à bien vérifier vos rendez-vous en amont car certains pourraient bien subir des annulations. Promu chevalier de la Légion d'honneur. Ce 1er janvier, Jean-Christian Pédebois, maire de Barbazan-Débat près de Tarbes, a reçu les honneurs de l'État. Après 42 ans passés au service de la mairie, il est promu au grade d'officier par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et au titre de son engagement politique. C'est officiel, le château de Bioul entame sa restauration. Hier soir, la Fondation du patrimoine a alloué une enveloppe de 185 000 euros pour la restauration du château de Bioul. Le préfet du Tarn et Garonne se réjouit de cette aide qui viendra renforcer la grandeur de ce monument historique qui abrite l'école du village depuis 1889. Attention sur la route, Météo France a placé ce matin les départements du Lot, de l'Aveyron et du Gers en vigilance jaune grand froid. Les autorités recommandent une attention toute particulière aux conditions de circulation suite à de forts risques de brouillard et verglas sur les routes. Couvrez-vous chaudement, on atteint des températures pouvant atteindre les moins 10 degrés dans le Lot.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'actualité nous était présentée par Lou Denville de l'UISPAL, l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Merci à tous ces jeunes de nous faire donc l'actualité à la mi-journée. On va continuer dans quelques instants avec le magazine de Passage à Lourdes.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
À Argelès-Gazost, 91.9.
Présence
de Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Au menu du jour dans cette émission de Passage à Lourdes, un voyage entre l'Espagne et la France, un voyage aussi au cœur de l'école de l'Évangile. Vous allez voir que c'est une très très belle expérience qui s'est vécue pendant 10 années à Lourdes. Et puis également le témoignage d'une maman, d'une mère de famille. Bonjour Chello.
Bonjour, bonjour Mathias.
Chello Ferral, vous êtes notre invitée. J'aurais dû dire que vous êtes Chello de Andrés y Bartolomé. Est-ce que je prononce bien votre nom?
Parfaitement, oui. C'est mon nom de jeune fille.
Votre nom de jeune fille, vous nous venez de la Castille, mais j'ai envie de dire que vous êtes à Lourdes depuis combien d'années maintenant? Depuis bien longtemps.
Oui, bien longtemps. Cela fait déjà 40 ans que je suis bénévole, mais que j'habite, cela fait 30 ans à peu près. Oui.
Donc c'est un voyage entre l'Espagne et Lourdes et la France. Pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes une passionnée de la culture française. Vous maîtrisez notre langue, qui est la vôtre en fait, aujourd'hui, parfaitement. Oui. Vous avez fait non seulement des études dans ce domaine, vous avez enseigné, vous auriez pu enseigner aussi toute votre vie le français, mais vous êtes allé plus loin parce que je pense que vous maîtrisez des argots français. Vous êtes allé jusque-là.
Oui.
Bon, on voit déjà que vous avez osé plonger non seulement dans la culture française, dans la langue, mais aller très très loin dans la compréhension de ce que sont les Français. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on oserait dire que, même si vous avez gardé la nationalité espagnole, vous êtes les deux. Vous êtes pétri de ces deux cultures, de ces deux façons de voir.
Tout à fait. Pour moi, la langue française, la culture, la civilisation, c'est une passion. C'est une passion. C'est quelque chose qui a commencé quand j'avais 14 ans et que je suis venue pour la première fois en pèlerinage à Lourdes après la mort de Franco. Et quand j'ai entendu les récits des apparitions et que j'ai rencontré Bernadette Soubirous, je me suis dit « Waouh, quelle chance !» À 14 ans, elle a rencontré la Vierge. Mais après, petit à petit, quand j'ai vu tout ce qu'elle a dû endurer, je me suis dit, non, je ne serai pas capable. Mais c'est cette rencontre entre femmes. Lourdes, c'est un pays de femmes, on va dire. Hein. C'est les rencontres des deux femmes qui ont fait que Lourdes est ce qu'elle est. Mais ça a été aussi cette rencontre avec Bernadette qui a tout changé à moi, qui a tout façonné. Même si j'avais une culture déjà des traditions chrétiennes catholiques, c'est Lourdes qui m'a convertie. Qui m'a convertie surtout dans ses côtés de l'accueil, de l'acceptation, de la différence. Pour moi, ça a été vraiment une découverte extraordinaire et que je n'arrêterai jamais de proclamer, de raconter aux autres.
Donc, vous venez à 14 ans, vous nous disiez après la mort de Franco, parce que c'est vrai que pour les Espagnols, là, il y a une bascule, il y a une porte ou des portes qui s'ouvrent de nouveau. Hein, on peut enfin se libérer d'un joug, d'une contrainte. Et donc vous venez, vous avez 14 ans, le même âge que Bernadette. Vous vous dites ça à cette époque-là, à ce moment-là où vous venez à Lourdes?
Oui.
J'ai le même âge que Bernadette.
Oui. Pour moi, ça a été pas un signe, parce que bon, les signes, on peut les trouver même sous les pierres, mais ça a été une date très importante. Parce que je me suis dit que je voulais être limitée. Limitée à un peu dans son parcours. C'est vrai que je venais d'un pays qui était un peu pas riche, on va dire, où on nous avait presque tout quitté, tout enlevé. Ma santé n'était pas très fameuse à l'époque. J'avais des problèmes de respiration. J'ai eu une pneumonie qui m'a laissé un peu fragile.
Ah oui, donc vous vous êtes identifiée à la petite Bernadette un peu.
Tout à fait, tout à fait. Dans sa pauvreté, dans son ignorance, dans la maladie. Et c'est ça qui m'a fait dire, ben, si elle a pu aller loin, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et je me suis dit, je reviendrai. La première fois, je me suis dit, je reviendrai.
Bon, vous reviendrez vers l'âge de 18 ans, vous êtes bénévole à Lourdes plusieurs fois. Ensuite, vous allez faire des études en Espagne. Vous faites des études de philologie française.
Voilà, j'ai fait les études de philologie française. C'est un bac.
C'est la culture française. Hein.
C'est culture et civilisation.
Et civilisation.
Et civilisation. C'est important parce que on peut parler une langue, mais n'est pas entré dans le pays. Et moi, ce que je voulais, c'est ne pas seulement parler la langue, mais connaître les Français, aller jusqu'au fond, lire la littérature, que ce soit j'ai lu presque tout, on va dire, de Rabelais aux derniers auteurs maintenant, je dévore les livres, j'aime beaucoup, parce que ça nous dit beaucoup d'un pays. Il y a quelque chose qui est très subjectif dans la lecture, parce que l'auteur, c'est libre lui-même, mais il nous raconte toujours une histoire, même si c'est de romans un peu fantastiques. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Ouais.
Donc, tout en gardant son amour pour son pays, vous y avez ajouté un amour pour la France, les Français, avec leurs limites, hein. Même si vous êtes marié à un Français.
Ah oui.
On va rencontrer l'histoire de votre rencontre, sans entrer, bien sûr, dans le détail des choses, mais tout de même, ça s'ajoute en fait. On ne retranche rien quand on prend une culture nouvelle.
Non, je n'ai rien oublié de mon pays, je n'ai rien renié de mon pays. C'est comme mon bras droit et mon bras gauche. C'est de la complémentarité. Et c'est ça qui fait de moi ce que je suis. Je suis les deux. Et mes enfants, ils me disent merci maman parce que tu nous apprends. Ils sont tous les trois trilingues. J'ai trois enfants, ils sont bilingues, pardon. Oui, deux ils sont trilingues. Et parce que dès le début, je parlais espagnol. La colère me sort davantage en espagnol qu'en français. Mais on a des conversations en espagnol. On part tous les ans, tous les cinq, même cette année, on partira tous les cinq, en Espagne, ensemble. C'est quelque chose que eux, ils
en Castille aussi, vous?
Ah, oui, au petit
dans
village.
Dans le village
à Saldagne, où c'est un petit village de 3000 habitants et qui a beaucoup de cultures aussi. Et c'est un des villages qu'on peut retrouver dans les annales à New York sur l'ère de bronze. Donc, du coup, c'est très, très, très ancien comme village, avec beaucoup de restes de l'invasion romaine. Et les enfants, ils aiment beaucoup. Ils aiment la fête espagnole, ils aiment la culture.
Donc, vos enfants, Marie, Emmanuel et Sarah,
c'est ça, tous les
viennent
trois
avec vous.
Oui, D'ailleurs, c'est une des étapes de l'année, partir une semaine tous les cinq en Espagne. C'est quelque chose. Parce qu'ils ont gardé aussi, eux c'est à l'inverse, ils sont français, même s'ils ont la double nationalité, ils ont été élevés dans la culture et civilisation française, et eux ils approfondissent la culture et civilisation espagnole. C'est un bon mélange.
Donc reprenons le fil de votre histoire. Vous découvrez Lourdes, vous avez 14 ans, vous vous identifiez très fortement à la petite Bernadette. Mm. Vous êtes vous-même un peu souffreteuse, enfin vous n'êtes pas très en forme au moment à l'âge où vous venez, à 14 ans à Lourdes. Mm. Et puis vous avez cette passion, on l'a compris, pour la langue française et la culture et la civilisation. Et vous continuez votre chemin avec la France et avec Lourdes, bénévolat à Lourdes. Comment fait irruption dans votre vie l'école de l'Évangile? C'est une expérience dont nous allons un peu parler maintenant, parce que peut-être que un certain nombre qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de l'école de l'Évangile. Elle s'est déployée pendant 10 années à Lourdes. Oui. C'est une très très belle expérience.
Tout à fait. Mais j'ai eu la chance, quand j'étais au camp de jeunes à l'époque, ce qui est maintenant le village des jeunes, je faisais du bénévolat, je faisais les pas de Bernadette pour les bénévoles jeunes de l'époque. Et le responsable, c'était le père André Cab. Et avec son frère Jean-Luc, qui s'occupait du Medj, ils se sont dit qu'à Lourdes, il y avait des pères, il y avait les prêtres, il y avait des mères, il y avait les religieuses. Mais les enfants, ils n'étaient que de passage. Et ils souhaitaient proposer aux jeunes de 18 à 30 ans un temps d'arrêt. 9 mois pour une vie. C'est 9 mois, on peut dire c'est beaucoup, mais en même temps, dans le parcours d'une vie d'un jeune, ce n'est pas grand-chose, pour proposer un temps de relecture, d'approfondissement. Il y avait des cours de théologie, d'anthropologie, de sociologie. C'était ancré. Il y avait un temps de passage dans les diocèses pour savoir les fonctionnements d'un diocèse, mais aussi d'engagement social. Parce que les chrétiens, ils doivent être enracinés. Le Christ, il s'est incarné, les chrétiens, ils doivent être enracinés, pas partir en l'air. Et c'est là que j'ai rencontré André et Jean-Luc, qui m'ont dit, est-ce qu'une expérience comme celle-là t'intéresserait? Moi, j'ai Lourdes. Si on m'avait dit que c'était à Petochnok, j'aurais dit non, mais c'était Lourdes. Et en plus, c'était pour vraiment m'enraciner dans quelque chose que j'ai découvert. La foi, un acte. Et donc j'ai dit oui, et je suis venue. Ma famille, au début, ils se sont arrachés les cheveux, parce qu'il fallait trouver un financement, il fallait ceci, pourquoi la France, pourquoi ceci. De toute façon, je m'étais dit, je venais juste de finir mes études de français, je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, le quoi, je n'en sais rien, mais si ça ne fonctionne pas, au moins j'aurais appris davantage le français. Non seulement j'ai appris le français, je me suis rendu compte qu'au niveau grammatical, j'étais presque parfaite, parce qu'on n'est jamais parfait, mais au niveau langage familier ou autre, c'était un peu plus compliqué.
Ah oui, donc vous vous êtes mis à apprendre des argots français pour aller jusqu'au bout de la compréhension de ce qui pouvait se dire dans la rue ou...
Voilà, parce que c'est pas pareil les langages littéraires, les langages...
Vous avez un souvenir comme ça d'un moment où vous vous êtes dit, mais je comprends pas ce que cette personne me dit, pourtant je crois avoir appris le français.
Oui, mais je me souviens de Patricien Carcassonnaise avec un accent bien trempé qui entre dans le bureau où j'étais avec la sœur, il dit, bon, tu me passes les thunes pour la caisse?
Tu me passes les thunes pour la caisse. Et là, Chello, qui était bon élève, qui avait tout appris de la langue française.
Je n'ai rien compris. Alors, j'ai dit, mais et c'est quoi? Il me dit, c'est du français. Alors, on m'a expliqué que c'était de l'argent pour la voiture. OK. Là, OK, j'ai compris. Je me suis dit, non, je ne dois pas rester là. Il faut que j'y aille plus loin.
Vous avez encore approfondi la langue française.
Tout à fait.
Cette expérience de l'école de l'Évangile, elle est fondatrice pour vous, évidemment, parce que toute jeune que vous êtes, ça va vous façonner, ça va vous faire plonger aussi dans l'ecclésialité, la réalité de l'Église, hein, en tant que communauté.
Oui, parce que bon, j'avais une foi du dimanche où c'était l'obligation. Dans ma culture, il fallait aller le dimanche à la messe, il fallait les fêtes religieuses, sinon on était presque en péché mortel, tout ça. Et là, j'ai découvert une Église libre, une foi des profondeurs.
Oui.
Ouais. Où chacun était libre de dire ce qu'il voulait, de faire ce qu'il voulait et de se sentir quand même aimé de Dieu.
Bon, il faut dire que les fondateurs de cette école, que sont, vous nous l'avez dit hein, déjà, André et Jean-Luc Cab, ou Jean-Luc et André Cab, qui sont devenus prêtres, natifs des Hautes-Pyrénées, devenus prêtres. André Cab est connu pour avoir été aussi recteur du sanctuaire de Lourdes. Mmh. Et Jean-Luc a été assassiné dans des conditions dramatiques, son frère. Ces deux personnages sont quand même très marquants. Deux prêtres singuliers, très puissants au plan de la foi et du rayonnement spirituel, mais extrêmement ouverts.
Oui. C'était une école déjà que par elle-même, elle était dérangeante.
Oui.
Parce que c'était une école mixte. Une école mixte, garçons-filles. Cette année-là, on était 10 garçons et 8 filles, ce qui a fait un peu barrage au début, parce qu'ils disaient quand même, qu'est-ce qu'on va faire avec des hommes et des femmes qui vont vivre ensemble. Mais bon, on n'était pas tous mélangés.
On n'est pas une agence matrimoniale.
Non, voilà.
mais c'était quand même extrêmement tenu. Et que...
Oui.
Tout de même, Cello, et ça, nous allons le raconter dans la deuxième partie de cette émission, c'est que vous avez rencontré Jean-Michel à l'école de l'Évangile.
Tout à fait.
Qui est votre mari.
Qui est mon mari maintenant. Et je venais pas pour cela. D'ailleurs, j'étais fiancée quand je suis venue à l'école de l'Évangile. Mais il y a eu un chemin qui s'est fait et que, naturellement, on est, pour lui, hein, pour Jean-Michel, en février 1992, c'était une évidence, c'était moi ou personne.
Ah oui.
Et
lui, c'est le coup de foudre.
Ah oui. Je ne sais pas si c'était le coup de foudre ou si c'était le coup de l'esprit sage. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour lui, c'était évident. Moi, j'ai mis un tout petit peu plus de temps, mais c'est devenu une évidence.
On s'arrête là, Cello, si vous le voulez bien, dans cette émission. On reprend après la pause, dans quelques minutes, pour continuer avec vous, à cheminer avec votre histoire personnelle. Et puis, on s'attachera peut-être un peu plus à parler du message de Lourdes. Parce que vous nous avez dit que Bernadette vous a beaucoup marqué dans votre enfance, votre adolescence, mais le message de Lourdes, vous le portez comme personne. D'ailleurs, ça fait des années que vous accompagnez les pèlerins sur les pas de Bernadette.
Oui, ça fait 40 ans que j'ai fait les pas de Bernadette.
Le chemin de compassion, vous parlez du message de Lourdes, message délivré à partir du 11 février 1858 à la grotte.
Tout de suite. À tout de suite.
Présence
de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Merci beaucoup, Cello, de vous livrer. Cello Ferral, vous êtes donc notre invité cette semaine. Et vous nous racontiez un peu votre histoire, votre double culture désormais, puisque vous êtes né en Espagne, vous êtes espagnol, en Castille, mais avec une connaissance non seulement de la langue française, mais de la culture française.
Oui, une passion.
Qui ferait pâlir bon nombre de ceux qui nous écoutent, pour tout dire, parce que vous êtes allé très loin dans la compréhension de notre culture, au point même qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans ces deux dimensions, c'est, vous disiez, vos deux jambes.
Ouais. Ou deux bras, peu importe.
Bras. Oui, pardon. Bon, vous nous avez expliqué votre cheminement avec Lourdes, et puis cette rencontre avec des prêtres qui vous ont marqué, le père Jean-Luc et le père André Cab.
Oui.
Qui vous ont marqué comme fondateur aussi de l'école d'Évangile, école de l'Évangile que vous avez vous-même vécu pendant 9 mois à Lourdes, et que vous avez accompagné pendant 5 ans.
Oui, tout à fait.
Comme couple accompagnateur, puisque vous êtes marié à Jean-Michel, que vous avez lui-même rencontré à l'école de l'Évangile quand vous l'avez vécu. Bon, on ne va pas pouvoir raconter tout le détail de ce que vous avez vécu entre ces périodes, mais de cette expérience, peut-être qu'on recommence là la deuxième partie de cet entretien comme ça, à l'école de l'Évangile où vous devenez un couple accompagnateur, elle est tout autre que celle que vous vivez avant.
Oui, ça n'a rien à voir tout en étant complémentaire.
Oui.
Dans notre parcours, c'est la suite logique, on va dire. Jean-Michel, mon mari, avant qu'on se marie, il a été, depuis Lourdes, il est parti muté, parce qu'il est professeur de sciences physiques, il a été muté à Nevers, de Lourdes à Nevers, comme Bernadette.
On revient toujours à
Bernadette. Et moi, je voulais repartir en Espagne pour passer les concours et être prof de français, sauf que cette histoire de la caisse m'a fait comprendre que peut-être je devais rester davantage en France pour vraiment avoir tous les langages, non seulement les langages littéraires soutenus, mais aussi les langages un peu plus familiers. Et donc j'ai été invitée à être surveillante à Bordeaux dans le lycée de l'Assomption, où j'ai passé 3 ans, et c'est pendant cette période qu'on a cheminé un petit peu ensemble jusqu'au mariage. Et après, une fois mariée, le père André Cab nous appelle pour devenir les couples accompagnateurs. Parce que dans cette école, il y avait un prêtre, il y avait une religieuse, il y avait un couple. Toutes les vocations, ou presque, étaient représentées. pour montrer vraiment que l'engagement d'église, c'est un engagement complet, quoi qu'on fasse comme vocation spécifique. Et donc, c'est comme ça qu'on est revenu à Lourdes, où j'étais enceinte jusqu'aux oreilles, parce que l'école commençait le 1er octobre, j'ai accouché le 23 octobre. C'était un engagement vraiment en famille.
C'était
C'était Marie qui est née. Le 23 octobre.
Qui est maintenant médecin.
Et qui est maintenant médecin. C'est du parcours magnifique qu'on a vécu. On disait toujours que les enfants, c'était comme Obélix, ils étaient tombés dans la marmite étant petits. Mais j'ai continué l'accompagnement. J'ai été formée pendant ces années d'école de l'Évangile, et j'ai été formée pour l'accompagnement humain, spirituel, vocationnel. J'ai eu aussi une formation pour l'accueil des personnes en difficulté psychique, parce que cette école, on faisait pas les tri. On prenait les gens qui se présentaient. Parce que on se disait que les personnes qui se présentaient pour cette école, certains étaient envoyés par les évêques de la région apostolique, mais d'autres se présentaient de leur propre chef. On disait que tout est grâce. Et que chaque personne peut apporter une pierre au grand édifice, ce qui n'a pas été toujours facile, parce qu'on a eu des cas en difficulté psychique, certes, mais aussi un peu des spiritualités, on va dire, très différentes. Il fallait composer. Nous, on disait que c'était une micro-société qui vivait ensemble, la foi, ensemble.
Justement, arrêtons-nous quelques instants sur la question de la fragilité. Vous nous disiez, je me suis formé à pouvoir comprendre, accompagner, en tout cas écouter des personnes en situation de fragilité, notamment fragilité psychique ou maladie psychique. Tout de même, Lourdes, quand on regarde les choses de l'extérieur et qu'on ne connaît pas trop le lieu, on se dit, mais c'est improbable, étonnant, cette histoire-là. Pourquoi toutes ces personnes malades? Pourquoi toutes ces personnes porteuses de handicap, visibles ou invisibles? Mais ce qu'on voit, ce sont ces handicaps visibles. Est-ce qu'il y a une grâce particulière au lieu pour être capable d'accueillir ces réalités cabossées?
Moi, ça m'a toujours étonnée, parce que j'ai approfondi beaucoup les messages de Lourdes, puisque je suis une passionnée de Bernadette, je voulais savoir un peu plus sur elle, et c'est à travers les messages, les apparitions et les messages de Lourdes que je suis arrivée. Il n'y a rien qui dit, dans les apparitions, qu'il faille venir, que les malades doivent venir à Lourdes. Il n'y a rien qui parle de... Il n'y a rien qui dit. Et cependant, depuis le 29 février 1858, que Bernadette a découvert la source, qui n'est pas une découverte, elle était là. Il a suffi simplement de creuser un peu. C'est comme chacun de nous, hein. On a le Christ en nous. Des fois, on l'enfuit un peu dans cette source pleine de boue. Mais c'est à partir de là qu'il y a eu les premiers miracles. Et c'est à partir de là que les malades se sont sentis attirés. Moi, c'est cette attirance que je trouve intéressante, parce que moi-même, j'étais attirée par la grotte de Lourdes. Bernadette, elle était attirée dans la plupart des dates des apparitions par la grotte. Elle n'avait pas une heure fixe pour aller à la grotte, mais elle était attirée. Et c'est cette attirance qui fait que Lourdes est différente. C'est sûr que la première fois qu'on arrive, surtout quand je suis arrivée dans les années 70, les malades, on les cachait, les personnes handicapées étaient enfermées. Et là, ils ont les premières places. Mais c'est quoi? Mais c'est parce que ici, à Lourdes, on ne cache rien. On est comme comme au paradis. Adam et Ève étaient nus, ils ne les savaient pas. Parce qu'il y a cette innocence qui fait qu'on accueille, on accepte. Tout simplement. Et voir une célébration avec les personnes handicapées ou les personnes malades ou les personnes âgées. Et maintenant, les autres maladies qu'on commence aussi à ouvrir, les personnes. On entend de temps en temps qu'il y a une personne avec Alzheimer qui s'est égarée. Mais on accueille tout le monde. Lourdes, c'est les lieux de tout le monde. C'est vrai que ça sera contrepartie, parce que j'ai travaillé pendant 6 ans pour le service national des vocations ici à Lourdes, et on accueillait beaucoup de personnes qui venaient en voyage. Ils se croyaient dans un voyage interstellaire, et qu'en arrivant à Lourdes, ils allaient guérir, parce que c'est la maladie mentale, c'est une souffrance énorme. Pour la personne, mais aussi pour l'entourage. Mais ici, ils se sentent libres, parce qu'ils peuvent être ce qu'ils sont sans tabou. Et pour moi, ça a été quelque chose de très, très important. D'ailleurs, quand je fais toujours les pas de Bernadette à la découverte des sanctuaires, ou quand je fais les chemins des compassions, ce que je demande en premier, c'est si j'ai des malades avec moi, parce que les dialogues n'est pas les mêmes. L'accueil n'est pas les mêmes. Parce que c'est eux qui mènent les tempos. On ne peut pas aller à la même vitesse si on a des personnes de 90 ans que si on a des jeunes de 15 ans. Et ça, c'est pour tout. Accueillir, c'est s'adapter. Et ça, je trouve que Lourdes, c'est énorme pour ça. parce qu'il ouvre les portes, les gens s'engouffrent, et une fois qu'ils sont là, bon, on va voir, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et c'est hyper intéressant. Les apparitions des Lourdes, c'était des marches. Bernadette, elle venait pour un besoin très particulier. Le 11 février 1858, Bernadette, elle est arrivée à Lourdes, à la grotte de Massabielle plutôt, parce qu'elle avait besoin du bois pour se chauffer, pour éclairer son cachot, pour chauffer la marmite. C'était un besoin tout à fait humain. Et c'est parce qu'elle s'est arrêtée quelques instants qu'elle a vu la Vierge. Elle aurait pu faire comme ses copines qui étaient venues avec elle, courir pour aller ramasser quelques brindilles, faire un fagot et repartir. Mais elle a dû s'arrêter. Sa maladie a fait qu'elle ne pouvait pas traverser le canal de sa vie. Elle a dû s'arrêter. Tous ces gens qui viennent à Lourdes viennent aussi pour s'arrêter. Et c'est quand on s'arrête un peu qu'on peut entendre le souffle que Bernadette a entendu, qui précédait une lumière, qui précédait la dame habillée de blanc, comme disait Bernadette. Mais chacun de nous, quand on vient à Lourdes, ben, on marque cette pause. Et c'est là qu'on peut entendre.
Vous qui observez donc, ces mouvements de pèlerins, ces venues de pèlerins depuis des années, vous avez vu sans doute des changements dans leurs attentes, dans leur compréhension, dans leurs approches, hein, dans leurs usages même, on oserait dire. Diriez-vous que le message tel que vous nous l'exposez là, il a gardé toute sa pertinence pour nos contemporains?
Tout à fait.
Parce que c'est vrai qu'avant, il y a le pèlerinage, le monde du pèlerinage organisé, bon, il était encadré aussi par l'Église, par des prêtres qui expliquaient avant, pendant, après, ce qu'il fallait comprendre du message de Lourdes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui arrivent, qui frappent à la porte sans trop savoir, qui n'ont ni les rites, ni les usages, ni les prérequis.
Les messages sont les mêmes, et il restera toujours le même. Et il est
toujours aussi percutant.
Oui. Après, c'est à moi d'adapter mon langage. Parce que les pèlerinages qui arrivaient avant, ils avaient une culture. Ils connaissaient les mots, les termes. Maintenant, on n'est pas chrétien, oui, par tradition. Donc, ou on les devient, ou on vient tout simplement un touriste. Des mots qui, pour nous, ont du sens, pour d'autres, non. Les mots procession.
Oui. Le mot grâce, le mot Esprit Saint, parfois, ils disent.
Ben oui, vous me parlez c'est dans les termes qu'il faut qu'on s'adapte. Ce n'est pas dans les messages.
Oui.
J'ai fait pour la paroisse la préparation au baptême des petits. C'est les parents que j'ai formés, ce n'est pas les petits. Mais je me sers toujours des apparitions. Parce qu'ils suivent chronologiquement un peu les rites du baptême. On commence par les signes de croix. À Lourdes, le premier, ce qui se passe en premier le 11 février, c'est un signe de croix. Et après, ben, on a tous les signes du baptême. L'eau, la lumière, les vêtements blancs. C'est quelque chose qui va durer toute la vie. Pour les pèlerins qui viennent, qu'on fasse à l'endroit, à l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence les pas de Bernadette, que ce soit à la Vierge couronnée, au musée, à l'église, au cachot, au moulin des Bollies ou à l'hospice, on peut les faire dans un sens, dans un autre. Parce que quand il y a par exemple les frates, on ne peut pas faire à la suite...
Le frate, c'est-à-dire ces milliers de jeunes qui viennent d'Île-de-France.
Voilà. Et donc, pour faire les pas des Bernadettes, il faut couper un groupe.
Oui.
Et on ne peut pas aller tous à la queue leu-leu. Donc, il y en a qui commencent au cachot, d'autres qui commencent à l'hospice, d'autres à l'église. Mais les contenus sont les mêmes. Les lieux peuvent changer.
Et ça les touche quand même. Enfin, oui. Malgré ce qu'ils sont aujourd'hui. Enfin, malgré... Avec ce qu'ils sont aujourd'hui, je devrais dire.
Oui. Mais oui, mais ça touche à tout le monde. Oui. Aux grands, aux petits, aux adultes, aux jeunes. Parce que c'est une vie qui est simple. Une personne qui, sans rien comprendre, reçoit un message...
Qui est compréhensible.
Voilà.
Accessible.
Voilà.
Oui.
Qui n'a rien d'extraordinaire. C'est très terre-à-terre.
Aller boire à la source, qu'on vienne en procession, qu'on bâtisse une chapelle. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur.
Oui. C'est des paroles qui touchent à tout le monde.
Ouais.
Peut-être pas tous.
Je suis l'Immaculée Conception, évidemment.
Ah, ça, oui.
Là, c'est plus compliqué peut-être de comprendre pour ceux qui n'ont que des rudiments parfois.
C'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est le 25 mars que la Vierge a dit ça. C'est le jour de l'Annonciation. On peut faire un lien... Un lien extraordinaire de la pureté avec la personne qui est choisie. Marie, c'est une femme, c'est quelqu'un de notre terre, c'est quelqu'un de chez nous. Bernadette, elle est d'ici. C'est des choses qui nous touchent. On touche à la maladie, on touche à la grâce, on touche à tout. En détail, ça avait été ce qui m'avait frappé le plus pendant les jubilés. En 2008, je faisais les chemins du jubilé, qui est un peu les pas de Bernadette, mais avec quelques adaptations. Et j'ai eu un groupe du Panama. Et il y avait une dame qui avait tout vendu pour venir faire le pèlerinage à Lourdes et recevoir la grâce du jubilé. Elle venait avec d'autres personnes qui, apparemment, elles étaient plus aisées qu'elle. Et au début, il l'a traitée un peu, la pauvre. Une fois qu'on a fini le chemin du jubilé, qu'on a parlé de la pauvreté physique, la pauvreté du cœur, l'être humain et sa pauvreté, les gens ont changé le regard. Et il y avait une dame qui lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rentrer? Elle a dit, Dieu pourpoira. Pour moi, ça a été un témoignage que je les garde et que je ne veux pas perdre, parce que ça, c'est Lourdes.
C'est le mot de la fin, Cello Ferral. Merci beaucoup pour cet entretien, ce témoignage. On a envie de vous donner un autre rendez-vous, un autre jour, pourquoi pas. Je sens qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le chemin de compassion, sur la petite Bernadette encore, sur le message, approfondir toujours. Merci pour votre témoignage.
Merci à vous, Mathias.
Et on se dit à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Après 48 heures en prison, Nicolas Maduro doit être présenté ce lundi devant un tribunal fédéral de New York. La capture du président vénézuélien.